Bonjour chers auditeurs, c'est Si vous voulez me prêter vos oreilles, avec Jasmine à l'animation et Stéphane à la technique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Marie de Henzel, le livre Coup de cœur. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, vieillir sans être vieux. Marie de Henzel est psychologue clinicienne, pionnière du développement et de la reconnaissance des soins palliatifs. Elle a travaillé 10 ans auprès des malades avant d'être chargée de mission au ministère de la Santé sur les questions de la fin de la vie. Vieillir est le processus même de la vie et nous pouvons entrer dans le troisième âge sereinement, le cœur léger et assuré d'avoir encore devant soi de belles années pour s'épanouir. Forte de son expérience personnelle et professionnelle, Marie de Henzel nous apprend à apprivoiser nos sentiments et à garder foi en l'amour, un témoignage précieux pour maîtriser l'art de bien vieillir. Rencontre avec des vieillards remarquables. Convaincue que si nous sommes entourés d'humanité, si nous gardons le cœur ouvert et une petite lumière au fond de nous, notre vieillesse, quelle qu'elle soit, aura sa dignité et son sens, et que le lieu où nous la vivons importera sans doute moins que nous ne l'imaginons, j'ai pensé qu'il était temps enfin de revenir vers ces paroles de sage qui montrent que l'avancée en âge peut être vécue comme une victoire, pour reprendre les mots de La Doucette. Peu après ma rencontre avec lui, je reçois le magazine Nouvelle Clé qui publie 10 témoignages de seniors magnifiques. Voilà qui me réconforte. Ce qui donne l'âge, c'est bien la jeunesse du cœur, affirme Benoît Groult, qui, par ailleurs, se plaint d'un âge où on passe son temps à dire « aïe ». Pouvoir ouvrir ses volets chaque matin et découvrir le jour naissant. Le monde redevient frais tous les jours. Alors que quand on est jeune, on ouvre machinalement les volets. Chaque geste prend sa valeur. On devient curieux de tout, bien plus curieux qu'avant. Par exemple, je viens de découvrir la poésie qui vous pousse à la contemplation, vous ramène à l'essentiel. Je découvre la richesse des voyages immobiles. Quand j'étais dans l'action, je la délaissais. Maintenant, je la savoure. Henri Salvador renchérit. Cette curiosité, c'est ce qui conserve. C'est l'anti-vieillesse par excellence. Lui aussi, comme tant d'autres, rappelle que la clé du bonheur consiste à savourer l'instant présent, les bons moments, car la vie, c'est fabuleux. On dirait que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se plaignent tout le temps, râlent, gênent, se délectent de leur malheur. Je ne vois que les bons moments, les autres, je les oublie. En écho, on lit que la doyenne du Sénat, Paulette Brisepierre, déclare que plus elle avance en âge et plus elle trouve la vie fantastique. Maurice Béjart lui affirme à 79 ans que le vieillissement n'altère pas l'élan créateur. Et s'il ne peut plus danser lui-même, il vit la danse à travers ses élèves. Denise Desjardins, 83 ans, rappelle qu'en Inde, on dit que quelque chose continue à grandir en nous jusqu'à la fin. On parle du Seigneur intérieur. On l'appelle aussi le soi, l'être véritable. Autant de noms pour désigner quelque chose de permanent, d'inamovible, presque d'éternel. Robert Laffont, à près de 90 ans, parle de joie de contempler sa vie à l'envers. Si dans son corps il se sent vieux, lourd, son esprit se sent de plus en plus léger, détendu, serein. Il en prend encore de la vie notamment à vibrer et communier avec le monde qui l'entoure. Claude Sarotte, 80 ans, parle de cette liberté très agréable pour une femme, ne pas se sentir obligée d'être sexy. Elle est moins dépendante du regard des autres et sent qu'elle peut dire ce qu'elle veut, sans crainte d'être jugée. Jacqueline de Romilly, 93 ans, elle aussi, confirme que l'esprit reste jeune et qu'on peut enfin quitter son petit moi et s'élever vers la sagesse. Enfin, pour le professeur Beaulieu, la place accordée au plaisir, à la volupté, à la sensualité est essentielle pour vivre une vieillesse heureuse. La lecture de ce catalogue de seniors magnifiques m'a suggéré l'idée d'aller parler avec 2 personnes que j'aime et qui, chacune à sa manière, me donnent envie de vieillir. Je les considère comme des porte-bonheur, tant leur présence seule fait du bien. Je vous les présente donc. Elles sont toutes les deux figures médiatiques connues. Elles sont toutes les deux des âgées rayonnantes. Voilà d'abord Sœur Emmanuelle, cette religieuse presque centenaire, connue de tous les Français pour son charisme et l'action qu'elle a menée dans les bidonvilles du Caire pendant 20 ans pour combattre la misère et l'analphabétisme, n'a cessé de secouer ses contemporains, poursuivis par le non-sens et en quête de libération spirituelle. Très médiatique dans les sondages de popularité en France, elle côtoie Johnny Hallyday. Elle a profité de cette aura pour toujours inlassablement prêcher la voix du cœur. Consciente de la jouissance personnelle qu'elle a tirée de cette position médiatique, elle a fini par l'accepter lucidement. « J'ai compris, dit-elle, qu'il est impossible de séparer le noyau dur de son propre intérêt du souffle d'amour pour les autres. Comment mieux dire que l'acte gratuit n'existe pas ? Notre nature cherche son épanouissement. Elle contient elle-même la soif de jouir, de posséder, de se faire mousser, comme elle contient aussi l'élan du don, du service, de la compassion. » Si je cite ces paroles de Sœur Emmanuelle, c'est que je suis touchée par l'humilité et la vérité dont elle fait preuve en parlant ainsi d'elle-même. Cette femme est vraie, et c'est la raison pour laquelle je suis allée la voir pour recueillir son témoignage. En cette fin d'après-midi, elle me reçoit assise dans son fauteuil, dans la chambre de l'hôpital des Diaconesses à Versailles, où elle est hospitalisée depuis le malaise qui l'a terrassée, alors qu'elle allait donner une conférence dans le Nord. Voûtée, ridée, mais l'œil toujours incroyablement vif, la voix toujours aussi haut perchée, l'esprit toujours aussi éveillé. Elle a presque 100 ans, mais je ne peux m'empêcher de penser « Quelle jeunesse ! Quelle énergie !» Nous nous connaissons depuis plusieurs années. La première fois que je l'ai entendu parler d'elle, c'était à Aix-les-Bains, à l'occasion d'un grand forum consacré à l'amour. Elle nous a parlé de Bergson. Elle était toute frêle, debout sur l'estrade, dans son accoutrement de religieuse qui n'a rien pour mettre en valeur. Et pourtant, elle rayonnait. Brandissant une feuille morte, elle nous a parlé du cœur de l'homme. Elle le comparait à un lac immense et profond, recouvert de feuilles mortes. Les feuilles de la tristesse et de l'amertume. Il faut absolument, disait-elle, fendre cette écorce de tristesse, plonger dans les profondeurs du lac, c'est-à-dire dans les profondeurs de ce cœur. Il faut avoir le courage d'aller au fond de soi, de puiser en soi, répétait-elle, comme pour nous transmettre quelque chose de son immense confiance en Dieu. L'homme passe l'homme, a-t-elle rappelé, citant Pascal, le philosophe qu'elle aime par-dessus tout. Pascal qui lui a fait découvrir la grandeur pensante de l'homme. Et puis, nous nous sommes revus quelques mois plus tard. Je lui ai demandé de me remettre les insignes de la Légion d'honneur. Je voulais que ce soit quelqu'un comme elle, de profondément engagé, au service de l'homme, qui me remette cette distinction. Elle a accepté, car elle avait beaucoup aimé mon livre « La mort intime ». Cette cérémonie nous a liés. Maintenant, dans cette chambre d'hôpital, elle se sent vulnérable. Ce malaise, c'est comme un signe. La mort n'est peut-être pas très loin. D'ailleurs, elle y pense tous les jours, mais sans aucune peur. Elle est prête. « Pour moi, c'est comme un enfant qui tombe dans les bras de son père », me dit-elle en parlant de la mort. Je suis venue lui demander de nous transmettre quelque chose de son expérience de la vieillesse. Son témoignage n'est certes pas représentatif de ce que vivent la plupart de nos âgés, car Sœur Emmanuelle est une sorte de sainte. On pourrait me reprocher d'aller chercher des exemples auxquels on ne peut pas s'identifier. Sachant cela, je suis tout de même allée la voir, car je pense que nous avons besoin des paroles de ceux qui nous tirent vers le haut. À chacun des lecteurs de prendre dans les paroles qui vont suivre ce qui peut l'aider à avancer en âge. L'invitant à me parler de sa vieillesse, elle me regarde droit dans les yeux. « Eh bien, tu vois, Marie, la vieillesse, c'est la plus belle période de ma vie. J'ai le sentiment d'être riche de toutes les rencontres que j'ai faites. Des milliers de gens m'ont enrichi, de sorte que j'ai un capital immense et que je me sens responsable de transmettre ce que j'ai reçu. » Comme je lui fis remarquer que les gens la voient comme une sage, elle rétorque « Mais je ne suis pas sage, Marie. Je suis un peu uluberlu. Je me lance dans des aventures, je suis déraisonnable. J'ai toujours été comme cela. Ce que j'ai fait, je l'ai fait contre vents et marées. Personne ne m'a prouvé. Quand je suis devenue religieuse, tout le monde s'est moqué de moi. J'étais une fille qui aimait s'amuser, voyager, danser avec de jolis garçons. J'étais coquette. Le look, c'est important pour moi. Alors on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire au couvent ?» Les autres ne voyaient pas que dans le fond de mon cœur, j'avais un désir d'absolu. Je flirtais, je voyageais. Mais cela me menait à quoi? Je sentais que j'étais faite pour quelque chose qui ne passe pas. Je ne connaissais pas encore la parole de Pascal. Tout nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Je sentais que tout me glissait des mains. Je voulais ce qui ne passe pas, l'amour, l'amour gratuit, l'amour vrai, car cela est éternel.
Naked trees yonder burn a thousand winds blowing hidden things. Diamonds never die. Borderline of naked trees, it is blowing from the sea. Homeless scattered eyes. Swallows never cry.
Il y a quelques années, lorsque nous avons parlé, elle et moi, de notre enfance, sœur Emmanuelle m'avait dit combien le fait de voir son père se noyer sous ses yeux lorsqu'elle avait 6 ans avait été déterminant. Ce jour-là, vous avez compris au fond de vous que tout passe, que la vie est passagère. Vous avez cherché en effet ce qui ne passe pas. Oui, j'ai compris que si j'aimais un homme, si je me mariais, cet homme disparaîtrait un jour comme j'avais vu disparaître mon père. Il me fallait un amour absolu, un amour qui ne disparaîtrait pas. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la vie religieuse. Cette vie m'a libérée. Quand j'ai troqué ma robette de jeune fille coquette contre l'austère robe de novice, une robe noire qui me tombait jusqu'aux pieds et sur la tête, un petit voile attaché par 2 cordons complètement ridicules, on avait l'air de veuve. Cela m'était bien égal. J'étais libre. J'avais fait vœu de pauvreté, donc je n'avais plus besoin d'argent. J'avais fait vœu de chasteté, donc les jolis garçons ne m'intéressaient plus. J'avais fait vœu d'obéissance, j'avais une aise supérieure avec laquelle j'allais chercher le bon chemin. Enfin, j'étais libre. Et je me sens toujours libre, peut-être même plus, encore plus. Voulez-vous dire que la vieillesse donne une liberté plus grande encore? Ai-je demandé? Oui, je le pense. Les contacts sont tellement plus faciles. Et puis la tendresse qui, lorsqu'on est plus jeune, peut sembler ambiguë et que l'on n'ose peut-être pas vivre pleinement à cause de cela, devient une dimension humaine très claire. J'ai des amitiés très tendres, qui sont vraies et qui m'apportent beaucoup. Et puis quand je vois ma vie se dérouler, je me sens en paix. J'ai fait les bons choix. Comme je lui demande à quoi elle passe toutes ses journées, je reçois mes amis, ceux de l'association que j'ai fondée et dont je suis de près les activités. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai énormément de jeunes amis. Je me retrouve en eux, ils me rafraîchissent l'âme, les jeunes, c'est délicieux. On peut être vieux et garder le cœur jeune, c'est une merveille. En vieillissant, je suis devenue extrêmement sensible. Le respect, l'affection me font du bien. Avant, je ne ressentais pas le besoin d'être entourée de sourires et de gentillesse. Maintenant, j'en jouis beaucoup, et cela m'aide à ne pas être une vieille ronchonneuse. Se sent-elle parfois seule? Jamais, vois-tu, Marie. Je crois profondément à la présence d'un esprit d'amour qui nous habite. C'est ma demeure. J'en jouis à tout instant. Cette présence, vous l'appelez Dieu? Ai-je risqué? Son visage s'éclaire. Un visage de jeune fille soudain. J'ai 2 sources infinies de joie. Dieu et les hommes. Je crois en Dieu, je crois en l'homme. Quand je suis seule, je prie. J'ai toujours mon chapelet à portée de la main. Je prends dans ma prière toutes les personnes qui sont dans mon cœur et je fais un immense bouquet que j'offre du matin au soir. Béni Seigneur, tous ceux que j'aime. Je suis sûre que Dieu m'écoute, qu'il les aide à porter leur vie, à sauter par-dessus les obstacles, à aimer. Comme je lui demande ce qu'elle aimerait dire à tous ceux qui entrent dans le troisième âge et qui ont peur de vieillir, elle conclut d'une voix qui me frappe par sa fermeté et sa douceur. « N'ayez pas peur. La vieillesse, c'est comme un couronnement. J'arrive à la cime de ma vie et je regarde le monde et les autres avec une infinie tendresse. Je les ressens dans mon cœur. Cette contemplation tendre me procure une immense joie. Pour moi, c'est comme du champagne. La joie fuse dans mon cœur. Vous pouvez vous aussi donner autour de vous cette joie. On devient vieux le jour où l'on ne croit plus en l'homme et en la valeur de chacun, quel qu'il soit. Faites votre cette parole d'un poète musulman que j'aime tant. Fends le cœur de l'homme et tu y trouveras un soleil. Mais pour cela, il faut un peu s'oublier soi-même, s'intéresser aux autres. Il faudrait que les personnes âgées prennent conscience que c'est leur mission d'aimer. Quel que soit l'état dans lequel on vieillit, on peut regarder sourire, tendre la main, bénir, et cela transfigure la vie. Dans son livre « Rester jeune, c'est dans la tête », Olivier de Ladoucette consacre un chapitre aux stratégies psychologiques qui permettent de rester jeune. D'abord, prendre la vie du bon côté. Lutter contre le stress. Il cite notamment les études faites aux États-Unis qui montrent que tout événement traumatique procure un coup de vieux. Deux stress majeurs dans l'année feraient vieillir de 16 ans. Enfin, une anus horribilis comportant trois événements très graves, pourrait augmenter l'âge du corps de 32 ans, et ce dans les 12 mois qui suivent. Il nous rappelle que les centenaires nous enseignent qu'il est impossible de faire l'économie d'une bonne gestion des émotions si l'on souhaite vivre longtemps en bonne santé. Le biographe de Jeanne Calment, morte à l'âge de 122 ans, était impressionné par sa capacité à faire face à l'adversité. Elle était, selon lui, immunisée contre le stress. Elle aimait répéter à qui voulait l'entendre « Il n'y a pas d'épreuve insurmontable, il suffit chaque fois de trouver une solution. » Comment faire pour aller sur les pas de Jeanne Calment? Outre les règles d'hygiène de vie que nous avons abordées ailleurs, le sommeil, la nourriture frugale et équilibrée, l'évitement de l'alcool et du tabac, le mouvement, il s'agit avant tout de s'adapter aux situations, de garder confiance dans ses ressources, d'accepter ses limites avec humour, de savoir refuser ce que l'on n'a pas envie de faire et de veiller à glisser dans son quotidien des plages de temps consacrées à faire ce qui fait plaisir, tranquillement. Si en plus on peut partager avec son entourage ses soucis, alors on est sur la bonne voie. Toutes les études montrent que les personnes âgées qui ont conservé un réseau relationnel autour d'elles, familial, amicales, vivent plus longtemps que les autres. Donner, recevoir, faire preuve de générosité exerce un effet positif. À l'inverse, les conflits relationnels sont un véritable poison qui ronge comme la rouille. Les centenaires ne sont presque jamais solitaires. Ils ont près d'eux des gens loyaux qui leur apportent quotidiennement un soutien physique et psychologique. Ces relations existent grâce à un charisme certain, inspirant le respect et l'affection et qui exerce un fort pouvoir d'attraction sur les gens. Il s'agit de trouver l'équilibre entre une solitude assumée et une vie affective riche. l'indépendance affective n'est pas facile à assumer quand on se sent seul. Combien de personnes âgées reportent sur les plus jeunes une attente à laquelle ils ne peuvent répondre car ils ont leur vie. L'idéal est de ne pas trop attendre des autres et d'être simplement disponible. Être aimable, voilà la clé, affirme Jean-Louis Servan-Schreiber. À nous de faire en sorte que l'on ait plaisir à nous entendre, nous rencontrer, à communiquer avec nous. Adoucissons-nous. Soyons disponibles. Certaines personnes âgées savent très bien doser cette alchimie, écrit-il aussi. Cela se niche dans un regard, un sourire, une voix aimable au téléphone. Elles ont un instinct pour se rendre agréable. Elles ne se plaignent jamais, n'attendent rien, ont leur propre réseau relationnel, veillent à leur aspect physique. Il ne s'agit plus de chercher à séduire, ce qui n'est pas approprié, mais de rester attirant, de cultiver son charme. Le charme ne vient plus de la souplesse de la peau ou de la force du muscle, mais de l'âme, comme nous l'avons constaté à propos de l'actrice Tilda Shelton. Le charme vient de la capacité à s'intéresser à autrui, au monde, de porter sur la vie un regard de confiance, d'émerveillement et de gratitude. Il faut sortir de son égocentrisme pour entrer dans la sphère de l'autre, affirme Robert Misrahi. Robert Diels, auteur de nombreux ouvrages de PNL, programmation neuro-linguistique, a conduit une étude auprès des personnes âgées, restées dynamiques, et s'est intéressé au processus psychologique qui caractérise ces personnes, leurs croyances, leur spiritualité, leur capacité à surmonter le stress consécutif aux changements qu'impose le vieillissement, et enfin leur capacité à se fixer un nouveau cadre de vie. Nous avons une idée assez précise de l'image type du ou de la nonagénaire en bonne santé. C'est une personne heureuse qui sait s'adapter, qui a une vie équilibrée et des relations sociales harmonieuses. La question est de savoir, comment devient-on cela? Il ne suffit pas de le dire, ayez une vie heureuse et équilibrée. Nous voulons découvrir les processus psychologiques qui sont à l'œuvre derrière cette manière de vivre. Robert se demande comment ceux qui gardent une vitalité intacte, tout en atteignant un âge avancé, font face aux situations stressantes. Quelles sont les croyances auxquelles ils font appel pour contrôler leur état de santé? Quelles sont leurs stratégies vis-à-vis de la maladie? L'objectif de ce chercheur américain est d'identifier un modèle psychologique que l'on puisse ensuite utiliser pour aider les gens qui le désirent à mieux vieillir. L'étude a été menée à Nijmegen, en Hollande. Un appel a été lancé à la radio. Il s'adressait aux personnes de plus de 80 ans, en bonne santé et actives. 30 personnes ont répondu et Robert Diels en a sélectionné 4, deux hommes et deux femmes de personnalités et d'horizons sociaux très différents. La première chose qu'il a constatée est que la capacité d'être heureux et en forme dans sa vieillesse se retrouve chez des gens ayant une histoire, une personnalité, des croyances et des stratégies de vie parfois radicalement opposées. Il a donc cherché quels pouvaient être les points communs aux 4 participants qu'il les a sélectionnés. Il a été d'abord frappé par leur ouverture d'esprit, leur liberté de penser et leur tolérance. Le fait d'avoir été en contact avec des personnes très différentes dans leur enfance joue certainement un rôle dans cette ouverture. Ensuite, tous les 4 soulignent l'importance de rester en mouvement, de chanter, de regarder le côté positif de la vie et des événements, de voir dans les épreuves de la vie une opportunité pour évoluer plutôt qu'un échec. Tous les 4 soulignent le rôle essentiel de l'humour. Quand on aborde avec eux les moments marquants de leur existence, ils citent leur mariage comme ayant été le changement majeur de leur vie et la perte d'un conjoint comme la plus grande épreuve. Ils ont en commun d'avoir réussi leur travail de deuil en intériorisant la présence de la personne aimée disparue dont ils sentent toujours la présence protectrice. La pensée de la mort ne les préoccupe pas particulièrement. Ils savent que la vie est limitée, mais ils vivent comme s'ils avaient encore tout le temps et leur capacité à se tourner vers l'avenir est remarquable. Alors que la plupart des personnes de leur âge dans notre société vivent dans le passé et n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, Robert Diels fait remarquer que si ces 4 modèles sont capables d'envisager l'avenir, c'est qu'ils sont en paix avec leur passé. D'ailleurs, il confirme qu'ils ne changeraient pas un iota de leur vie, même si elle avait été jalonnée d'événements douloureux. Leurs croyances et leurs valeurs diffèrent, mais ils ont en commun le sentiment d'être liés à quelque chose qui les dépasse, et d'être en accord avec eux-mêmes. Au fond, chacun est fidèle à lui-même, à son histoire, à sa culture. Quant à la vieillesse, il la voit plutôt comme une chance, une libération, moins de soucis, plus de temps pour se consacrer à ce qui les intéresse vraiment, une liberté de parole, une plus grande confiance en eux, une plus grande ouverture. Chacun croit que son âge lui permet de faire ce qu'il n'a pas pu faire quand il était jeune, constate Robert, qui nous donne ici une clé de bien vieillir. Comment alors aider les personnes âgées dans cette expérience du vieillir? Comment leur apprendre à bien vieillir, à rester actif tout en acceptant le cours des choses, à être aimable, à rester fidèle à ce qu'on est, à s'intéresser aux autres en continuant d'apprendre d'eux, regarder le bon côté des choses, à garder le sens de l'humour? Cela s'apprend-il? Certains pensent qu'il est naïf de le croire. Les gens grincheux, égoïstes, dépressifs, ceux qui ont passé leur vie à se plaindre, à embêter les autres, ne changeront pas, pensent-ils. Leur vieillesse ne fera qu'empirer les choses. Ils feront partie de ces vieux que l'on fuit. Bien vieillir ne peut s'apprendre, car on vieillit comme on a vécu, fidèle à ses qualités et ou à ses travers. Je pense quant à moi qu'en vieillissant, on change et pas toujours pour le pire. Même chez ces personnes qui n'ont pas aimé la vie, quelque chose peut se produire qui les réveille. L'avancée en âge, avec les multiples épreuves et deuils qu'elle implique, est l'occasion d'un retournement. Chaque crise dans la vie est la chance d'une mutation. Les Chinois l'ont bien compris, puisque l'hexagramme qui signifie la crise dans leur langue a un double sens, le chaos d'une part, la chance d'autre part. En vieillissant, nous avons donc toutes les chances de mettre notre ego de côté et de nous tourner vers les autres. Cela implique un travail sur soi et à la volonté d'accomplir ce changement. Lorsqu'on a compris qu'être en harmonie avec soi-même et les autres est la seule manière de conserver un réseau d'amis autour de soi et de bonnes relations avec ses enfants, cela aide. En quittant mon ami philosophe, j'ai repensé à cette dernière parole d'une vieille femme de 92 ans, une demi-heure avant sa mort. C'était il y a bien des années, quand je travaillais comme psychologue au chevet des mourants. Les yeux pleins de feu, elle m'a saisi la main et la tenant avec force, m'a confié son ultime message. Mon enfant, n'ayez peur de rien. Vivez, vivez tout ce qui vous est donné de vivre, car tout est un don de Dieu. En écrivant ces mots, les siens, je sens encore l'énergie qu'elle m'a transmise en me parlant ainsi. Je la sens comme si cela venait de se produire. Preuve que ce qui vient du cœur et ce qui touche nos cœurs est éternel. Bon week-end, heureux week-end à vous. Merci.